texte d'aujourd'hui, il nous parle d'une mère, et d'une mère extraordinaire. Une mère qui a lutté pour sa fille. Et alors, c'est un texte très court de l'évangile de Marc, mais vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas forcément être très court. Et c'est au chapitre 7, à partir du verset 24. Alors, j'ai commencé à lire. Jésus partit de là, c'est-à-dire de Galilée, et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Des questions? Il y a quelque chose qui vous choque? Ce texte est un petit peu surprenant en première lecture. Et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi. Si vous êtes un peu familier des évangiles, vous n'êtes probablement pas étonné par le fait qu'il y ait un démon déjà dans cette histoire et que Jésus le chasse même à distance. Et pourtant, peut-être que c'est ça qui devrait nous étonner, si on y réfléchit un peu. Mais bien sûr, c'est plutôt l'attitude de Jésus qui nous paraît surprenante. On est habitué à le voir compatissant. On a aussi une culture qui nous laisse paraître Jésus comme une sorte de babacool inoffensif. Et peut-être qu'on a un peu oublié que Jésus était un personnage aussi qui pouvait être tranchant. D'ailleurs, je crois que c'est pour cette raison qu'il s'est réfugié, qu'il est parti dans cette région de Tyr et de Sidon. Mais d'abord, je vais juste vous présenter trois parties que je vais développer. D'abord, c'est un peu la situation initiale de notre histoire, cette retraite, une retraite du Seigneur qui va être troublée. Et ensuite, cette question un peu centrale au cœur du texte, les enfants et le petit chien. Et cette résolution, la résolution à la fin qui nous parle de miettes, j'ai appelé cette partie des miettes en abondance. Alors, une retraite troublée. Depuis le début de l'évangile de Marc, j'espère que vous lisez régulièrement, c'est très court, hein, l'évangile de Marc. Et dans ces premiers chapitres de l'évangile de Marc, Jésus suscite deux types de réactions, principalement, et qui peuvent expliquer le contexte de ce début de ce texte. D'un côté, il y a un enthousiasme exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir Jésus. Ils veulent le voir notamment pour ses miracles et pour les guérisons. Et c'en est à un point que on voit la foule à certaines reprises, elle va presser Jésus. Il y a l'épisode de la femme qui a un écoulement de sang. Jésus est entouré et pressé de toutes parts. Et ça, c'est déjà avant ce texte. Même si Jésus va prêcher, on a cette image hein, dans les têtes, Jésus qui prêche depuis le bateau vers la foule qui est sur le rivage, il nous a expliqué que c'était parce qu'il manquait d'être écrasé par la foule. Au point aussi même que lui et ses disciples, ça nous dit à deux reprises, notamment une reprise où c'est la maman de Jésus qui s'inquiète, hein, les mamans sont concernées pour le bien-être de leurs enfants, Jésus n'a pas le temps de prendre un repas. À plusieurs reprises on voit ça. Il ne peut pas se reposer. Et donc, je crois qu'un petit temps de retraite s'impose naturellement dans ces cas-là. Jésus a su se reposer à certains moments, prendre ce temps-là. Et il choisit d'aller dans un pays païen, le territoire de Tyr et de Sidon. On va voir que ce n'est pas n'importe quel territoire. Dans un territoire, donc, du coup, où il y a peut-être moins de chances, enfin, il y a sûrement moins de chances qu'il y ait une foule de juifs. En effet, les juifs, à cette époque, ils cherchaient à se séparer des païens qu'ils considéraient comme impurs. D'un autre côté, donc ça c'est la première réaction qu'on pourrait croire plutôt positive, mais qui finalement fait quand même fuir Jésus. Et d'un autre côté, il y a aussi la réaction des pharisiens, des enseignants, certaines personnes qui sont exaspérées par l'enseignement de Jésus. Il y a les miracles d'une part qui attirent les foules, mais les enseignements choquent. Dès le chapitre 3, on voit deux on va dire, deux partis politico-religieux, les Hérodiens et les pharisiens, qui vont s'unir pour commencer à trouver un moyen de tuer Jésus. Et oui, et donc le contexte immédiat d'ailleurs de ce texte, ce qui s'est passé au début du chapitre 7, c'est Jésus qui va parler, qui va même s'en prendre aux pharisiens. Les pharisiens vont dire « Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains ?» Sous-entendu, ils ne font pas les libations rituelles. Et il va leur, quelque part leur rentrer dedans en leur disant « Vous faites beaucoup attention à ce qui est extérieur. » Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est ce qui vient du cœur qui rend pur. Alors il y a ce verset, Marc 7, verset 15, « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » C'est son cœur. Alors Jésus, dans notre texte, il bat en retraite, il prend une retraite et il bat en retraite, car son heure n'est pas venue. Il sait qu'il est venu pour mourir, mais ce n'est pas le moment. Alors on comprend bien pourquoi il évite ceux qui cherchaient à le tuer, mais d'un autre côté, il ne cherchait pas non plus à être populaire. Il cherchait des disciples, il ne cherchait pas des fans, il cherchait des gens qui soient prêts à servir le royaume, pas des curieux, ou juste des personnes qui voient leur propre intérêt. Mais il se trouve qu'en fait, Jésus est déjà célèbre dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il y a des gens qui sont venus déjà du territoire de Tyr et de Sidon en Galilée pour voir Jésus. Et il se fait repérer, les nouvelles vont vite. Une femme étrangère fait irruption dans la maison où il était rentré. Même au verset 24. Il put rester caché. Et il faut qu'on réalise à quel point cette scène est un scandale. Déjà pour nous, si on admettons qu'on est en vacances, on a pris une location avec des amis pour se reposer, et là, entre quelqu'un complètement étranger, qu'on ne connaît pas, qui est peut-être même pas, voilà, qui ne parle pas très bien notre langue, peut-être qui s'exprime dans un mauvais anglais, et qui vient nous embêter avec des problèmes, alors j'imaginais des problèmes de visa par exemple, un truc compliqué à gérer. Là, on sent déjà que c'est pas déjà hyper correct, quoi. Mais à l'époque, c'est plus grave. C'est plus inconvenant. Parce qu'il y a plusieurs choses, hein, qui font ça, elles sont listées. Une femme étrangère, d'origine syro-phénicienne. Une femme non-juive d'origine syro-phénicienne. Donc déjà, c'était une femme. Et à l'époque, j'ai lu ça, qu'un rabbin, voit ça notamment dans l'épisode de la femme samaritaine, c'est étonnant qu'un rabbin discute en public avec une femme. C'est pas forcément vu comme quelque chose de correct. Et c'est surprenant d'ailleurs que cette femme soit seule. Il n'y a pas un homme qui vient intercéder pour elle. Peut-être que voilà, le père de cette fille n'est pas là, ou peut-être qu'il ne croit simplement pas en Jésus. En tout cas, voilà, c'est une femme qui se déplace, qui fait irruption, hein, dans cette pièce. Ensuite, c'est une femme non-juive. Alors là aussi, ça va loin. Qu'est-ce qu'une femme païenne a à voir avec un rabbin juif? C'est un peu étonnant. Surtout dans un contexte où, on l'a dit, les juifs cherchaient à éviter les païens, parce qu'ils étaient impurs. Et d'un autre côté, on a quelques témoignages de cette époque que, globalement, les païens, ils méprisaient un peu les juifs. Donc les rapports étaient assez réduits. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il est probable que cette femme s'exprimait en grec. C'est pour ça que je faisais mention de l'anglais tout à l'heure. Cette femme est non-juive, donc peut-être qu'elle s'exprimait en grec. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus parlait grec, juste pour l'anecdote, même si sa langue du courant, c'est plutôt l'araméen. Et cette femme, alors, est aussi syro-phénicienne. Tu nous dis qu'elle est aussi cananite, d'origine cananite, mais en tout cas, ça la place en tant que païenne. Et dans cette région du sud du Liban actuel, en fait, hein, qu'on appelait à l'époque la Syro-Phénicie, c'est la région de Tyr. Alors, si vous avez été là la semaine dernière, on a parlé d'une tyrienne assez célèbre dans la Bible qui s'appelle Jézabel. Moi, je n'étais pas là, mais je sais que Jérémy a parlé de Jézabel. Jézabel, c'est l'archétype de la femme étrangère dans la Bible, une femme qui est séductrice, manipulatrice, et qui a été la femme du roi Akab, un roi israélite assez mauvais, et elle a persécuté les vrais croyants et instauré des cultes d'idoles. Alors, voilà, ça donne un peu le ton. Enfin, un dernier point, et on passe presque vite dessus, cette femme a une fille qui a un démon. Et en termes de niveau d'impureté, hein, je pense que quand on est atteint par une attaque du diable, c'est clairement quelque chose qui va loin. Et cette femme entre, elle fait irruption et elle fait un scandale. Elle voilà, c'est « Viens m'aider, Jésus !» Elle se jette à terre. Il y avait comme un mur, la parole nous parle à certains moments comme ça, il y avait un mur entre Jésus et elle, un mur de règles sociales que j'ai listées, hein, un mur de culture. Et elle a choisi de franchir ce mur pour trouver Jésus. Et je me demande, pour nous-mêmes, à quel est le niveau, enfin, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à passer ce mur, à aller au-delà de ce mur pour aller vers Jésus. À quel niveau de détresse on se décide enfin à saisir cette main, j'ai énormément aimé cette image, ou plutôt rester campé sur ses positions et dire non, non, c'est moi-même, je n'ai rien à voir avec ça. Quel niveau de détresse salvateur, quelque part, on va pouvoir être prêt à suivre Jésus. Jonas, il a fallu qu'il soit au milieu de la mer pour commencer à se remettre en cause. Et cette femme, peut-être elle était peut-être déjà croyante avant, je ne sais pas, mais il a fallu que sa fille soit tourmentée par un démon pour qu'elle aille jusque-là. J'imagine, je ne sais, le texte ne nous précise pas ici quelle était la nature de cette possession, enfin en tout cas de cette démonisation de sa fille. On voit dans d'autres exemples des démons qui vont faire souffrir la personne qui le tourmente, le jeter dans le feu, le fait qu'il soit laissé à lui-même tout seul. Par moments, c'est des démons qui rendent muets ou aveugles. En tout cas, pour une mère qui voit sa fille dans un état qui est tourmenté, peut-être jour et nuit, c'est une angoisse terrible. Et peut-être qu'il faut parfois de grosses épreuves comme ça pour qu'on puisse ravaler notre orgueil et nous jeter à genoux devant Dieu. Et peut-être que Dieu nous invite ce matin à dire, peut-être que tu galères assez. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller encore plus loin dans tes soucis pour revenir à moi. Pas besoin d'être encore plus au pied du mur pour commencer à chercher la porte qu'il a ouverte. Alors, pourtant, on arrive dans ce deuxième point, les enfants et le petit chien, la réaction de Jésus, elle nous paraît assez surprenante. Jésus semble résister et il compare même cette femme à un chien. C'est une insulte encore aujourd'hui, je pense que c'était pas une plus petite insulte à l'époque. Enfin, elle pourrait le prendre comme une insulte. C'était aussi une manière assez courante pour les juifs de désigner les non-juifs. Donc les chiens qui étaient du dehors et qui étaient impurs. Et je crois pas que Jésus était en train de l'injurier. Il y a plutôt un ton un peu proverbial. Tu sais bien que on ne donne pas la nourriture aux petits-enfants, des petits-enfants aux chiens. Il faut déjà laisser se rassasier. Alors à d'autres occasions, Jésus a été très rude dans son langage. Hein. Il a parfois été même une certaine violence envers des personnes qui avaient le cœur endurci. Mais bon, même si c'est sur un ton proverbial, cette expression elle est dure, voire même choquante. Mais de fait, cette femme, elle lui répond « Oui, Seigneur ». Elle sait qu'elle ne fait pas partie ni des disciples, ni des juifs. Elle se sait impure, indigne. Elle se sait comme un chien. C'est spécial dans une société humaniste de dire des choses comme ça. Et ce texte, il nous dit, entre autres, que Jésus est d'abord venu pour les brebis d'Israël. Il le dit aussi dans le passage, c'est l'expression qu'il utilise dans le passage parallèle dans Matthieu 15. Ce sont d'abord les enfants que Jésus est venu nourrir. Alors, Dieu a choisi, depuis le début, hein, depuis Genèse, il a choisi de se révéler par une alliance avec un homme, d'abord Abraham, et puis avec sa descendance. Et de sa descendance vient le Messie, Jésus-Christ, le roi qui était promis. Et Jésus, quand il est arrivé sur terre, réfléchissez-y bien, il n'est pas venu dans la capitale du monde de l'époque, Rome, ni dans peut-être la capitale culturelle encore de ce monde hellénisé, Athènes. Il est venu en Galilée, et puis en Judée, prêcher, essentiellement à des Juifs. Et alors, c'est clair que cette histoire de peuple élu ne plaît pas à tout le monde. Mais si c'est la volonté de Dieu, qui peut contester ? Alors, ceci posé, il faut quand même dire que dès le début, Le peuple hébreu n'est pas l'unique but de Dieu. C'est presque même plus un moyen. Dès la promesse à Abraham, Dieu ajoute, et il le dit à plusieurs reprises, mais notamment dès Genèse 12, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » ou plus loin, « toutes les tribus de la terre seront bénies en ta descendance. » Plusieurs reprises, c'est répété à Abraham, puis à ses successeurs. Et Israël, même au Sinaï, Dieu l'annonce que vous devez être comme une nation sainte, un royaume de prêtres. Ça, c'est dans Exode. La conduite d'Israël et sa relation à Dieu devaient révéler quelque chose de Dieu et permettre aux nations, à toutes les nations, de glorifier Dieu. Et c'est plus révélé encore ensuite dans Ésaïe, où on voit, et puis dans d'autres prophètes, où il y a un appel qui est fait à toutes les nations. Et on voit Dieu qui va réunir toutes les nations pour les consoler, notamment dans Ésaïe 25. Je crois que la femme étrangère, je ne sais pas quel niveau d'instruction elle avait, mais en tout cas ça, elle l'a très bien compris. Parce qu'elle s'est accrochée à un mot de Jésus. « Laisse d'abord les enfants se rassasier. » S'il y a un d'abord, il y a ensuite, un ensuite. Après sa mort et sa résurrection, Jésus va envoyer ses disciples en leur disant « Allez, faites de toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues des disciples. » Et aussi dans Acte 1, « Allez, faites de toutes les nations, plus loin, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette démarche, la réponse de cette femme qui commence par admettre « Oui, Seigneur », ensuite, elle va s'accrocher aussi aux paroles de Jésus. Elle va s'accrocher à ce d'abord, mais surtout, ensuite, à ce qu'il dira sur le petit chien. Je crois que ce modèle de se dire on va s'accrocher aux paroles de Jésus, aux paroles de Dieu, à la parole de Dieu, pour prier, pour faire nos requêtes, ça, c'est un modèle profondément biblique. Il faut que la Bible, les promesses de Dieu, nourrissent notre vie de prière. Notre manière de nous adresser à lui. Quand un père entend son enfant qui le cite, il nous dit « Tu m'avais dit que… » Des fois, les enfants trichent. Hein. « Mais tu m'avais dit que… » Ah, il m'a écouté, il m'a pris au mot. Et ça, Dieu se plaît à l'entendre. Et elle va faire un travail d'exégèse des paroles de Jésus, d'exégèse d'interprétation. Hein. Elle va voir qu'il n'a pas utilisé n'importe quel mot pour « chien ». Il n'a pas dit « chien », suivant les traductions, je ne sais plus quelle était celle qui était affichée. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est au lieu de… Il dit « cunarion », le petit chien. Ok, petit chien. Et alors? Et en fait, ça fait une différence fondamentale parce qu'il ne s'agit pas des chiens errants. Alors, c'est en Moyen-Orient et dans pas mal d'autres pays, il y a des chiens dehors hein, qui traînent parfois par meute, des chiens qui sont un peu laissés à eux-mêmes. Mais c'est pas de ces chiens sauvages dont il parle quand il dit aux petits chiens. Alors que c'était l'expression, on a dit que les juifs appelaient les non-juifs chiens, c'était les chiens du dehors. Et là, il dit, les petits chiens, il parle des chiens domestiques qui sont donc dans la maison. Il ne lui reproche pas d'avoir fait irruption dans la maison. Elle est à sa place. Et donc, elle sait. On connaît bien avec les enfants, dès qu'il y a un chien dans la maison, quelques-uns en ont peut-être, hein, enfin, je sais qu'il y en a quelques-uns quand même. Les chiens, ils savent repérer les endroits où ils ont intérêt à aller. Souvent, c'est près des petits-enfants hein, qui vont plus facilement donner des miettes. Hein. Sa condition de non-juive, d'étrangère, sans ressources, c'était comme un mur devant elle, mais elle a vu, par ce petit changement de mots, que Jésus ouvrait la porte. Une porte à travers ce mur. Peut-être même légèrement, mais il y a une telle lumière derrière qu'elle voit qu'elle a ouvert cette porte. Pour nous, c'est un super encouragement. Ça a peut-être paru aussi choquant que je rappelle que Dieu est venu pour les juifs d'abord. Mais il y a aussi des promesses pour nous, pour la plupart d'entre nous, nous sommes non-juifs. Il y a ce Paul qui le dit en Éphésiens 2, versets 12 à 13, « Souvenez-vous, vous verrez les parallèles qu'il y a par rapport à cette dame, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenu proche par le sang de Christ. » Alors j'aurais bien aimé voir avec quel ton Jésus parle à cette femme quand il lui dit « Laisse d'abord manger les enfants. » Est-ce qu'il ne la regardait pas pour pouvoir garder un semblant de dureté? Ou est-ce que déjà il avait ce sourire qui, à mon avis, certainement il l'a eu quand elle lui a répondu « Oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. C'est une très belle réponse. Et il va la souligner, cette réponse de foi. On va parler de ces miettes, justement. La foi, donc, ne revient pas à essayer de faire de son mieux, à éviter de se rendre impur, comme essayer de faire les responsables religieux, mais plutôt à s'accrocher à ces paroles de Jésus. Et réaliser qu'on n'est pas digne. On n'est même pas digne des miettes. Ces miettes, c'était pas rien. Pourtant, quand Jésus lui dit « Pour cette parole, ça sera accompli. » Il accomplit cette... Il va lui donner les miettes. Les miettes, c'est quoi? C'est déjà sa fille délivrée immédiatement. Après probablement des mois, peut-être des années de tourments, de crises, de pleurs, de souffrances, elle est libérée. Là, maintenant. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez frappant. C'est que Jésus chasse le démon à distance. Peut-être pour rappeler qu'il distingue les juifs et les non-juifs. Mais il y a cette puissance à distance de chasser ce démon. Il est dans un contrôle total. Tu vois, j'avais entendu un chrétien, enfin quelqu'un s'il se disait chrétien, me dire « Finalement, Dieu n'est pas vraiment tout-puissant parce qu'il y a le diable. » Je tiens à rappeler que c'est complètement faux. Quand Dieu décide de chasser Satan, ça ne dure pas. Facile à dire. Chasser Satan. Et j'ai été frappé en regardant aussi la fin de Satan. C'est en Apocalypse 20, verset 10. C'est pas réglé, c'est pas un dernier combat final comme dans les films. Alors le dernier combat avec le grand boss, là, ça dure tout le temps hyper longtemps. Et là, non, c'est réglé en un demi-verset. Le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. C'est même à la voix passive. C'est le diable fut jeté. On a l'impression que Dieu se déplace même pas. Dieu est puissant. Et quand il donne des miettes, c'est quelque chose. Alors, on vient distribuer la scène. Ça arrive parfois que quand on est assis au fond de l'église, il ne nous reste que des petites miettes. Et peut-être que ça pourra nous aider à nous rappeler que, en fait, les miettes de Dieu, c'est le corps de Christ, là. C'est quelque chose de grand. Et sans rire, quand c'est le Seigneur qui distribue les miettes, on n'est jamais déçu. Et ce passage, il est encadré au chapitre 6 et au chapitre 8 par deux distributions de pain. On oublie parfois qu'il y en a deux. Hein. Quand on voit le spectacle Marc Expérience, on se dit « Oh là, ils ont déjà fait cette scène. » Il y a deux distributions de pain. Une au chapitre 6, Jésus nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et au chapitre 8, il nourrit 4000 personnes avec 7 pains et quelques petits poissons. D'abord, et en plus, non seulement il nourrit tout ce monde, mais il y a des restes. Alors on dit restes, on ne dit pas miettes, hein. je tire un peu, mais voilà, quelle abondance de miettes il reste. Quand il y a 12 paniers, et 7 corbeilles, c'est le mot qui est utilisé, c'est vraiment des corbeilles, on peut y mettre un homme en fait. Hein. Paul, quand il s'est enfui de la ville de Damas, où on cherchait pour sa vie, hein, l'apôtre Paul s'il s'enfuyait de la ville de Damas, il est descendu avec un ascenseur fait avec une corbeille comme ça. C'est en acte 9. Donc ça fait une quantité de miettes. Et on a peut-être l'impression que parfois Dieu est occupé à autre chose, il est peut-être pas si puissant, il est peut-être pas. Il est occupé, il est à court de bénédiction. Mais en réalité, on l'a répété ce matin, il écoute les prières. S'il ne répond pas immédiatement, c'est peut-être pour nous. C'est peut-être pour qu'on révèle notre foi, ou que cette foi s'affermisse, qu'on ait plus de persévérance. Ou alors, ça peut être un témoignage pour les autres autour de nous. Là, les disciples, si Jésus n'avait pas résisté, peut-être qu'ils n'auraient pas vu la foi. Il y a certains commentateurs qui disaient peut-être que Jésus, il ne la provoque pas, mais il cherche à montrer le diamant de cette foi. Il cherche à mettre en lumière quelle foi avait cette femme. On ne l'aurait pas vu si Jésus n'y avait pas résisté. Et peut-être que comme un père, il se plaît parfois un peu à résister pour rappeler la dépendance, pour apprendre peut-être. On résiste parfois pour apprendre la politesse aux enfants. Pour rappeler que je vais te donner, je suis plein de bénédictions. Et dans le ciel, ce sera merveilleux. Et tout ne tourne pas autour de toi. Je retiens un petit peu. Et c'est avec une joie de père. Un père, il aime distribuer des bonbons, mais il sait que des fois, Vous n'êtes pas en donner trop, trop vite. C'est à un père, c'est la manière dont Dieu a voulu se présenter. C'est la manière dont, enfin, il a même construit la paternité pour montrer quelque chose de son caractère. Et pour la femme, elle se bat, elle lutte avec Jésus. Et Dieu ne s'offense pas de ça, bien au contraire. On a l'exemple de Jacob qui a lutté avec Dieu. Il était désespéré lui aussi, il était vraiment désespéré. Il fuyait son beau-père qui l'avait roulé et il revenait dans son pays où il craignait la vengeance de son frère Ésaü. À ce moment-là, il se retrouvait tout seul et il y a quelqu'un qui s'est battu avec lui. Et il a lutté toute la nuit. Il ne laissait pas partir cet homme qui était Dieu ou qui représentait Dieu. Il lui dit en Genèse 32, verset 27, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Qu'on puisse être encouragé par Jacob et cette femme qui peut s'accrocher à Dieu et lui dire « Je veux ces miettes. » Par ailleurs, il faut voir que ce récit, il est la suite logique de ce qu'on a vu juste avant. Ça, c'est une part de nous par rapport à Dieu, mais il y a aussi nous par rapport aux autres. On n'est pas dans une logique où il faut se protéger des autres qui pourraient nous rendre impurs. On est tous impurs devant Dieu. Ça vient du cœur, le problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à aller accueillir un étranger, à aller accueillir peut-être même quelqu'un qui nous paraît vraiment dans le péché, plus grave que nous, si c'est possible. Même si on n'a pas la même langue, pas la même culture, pas la même vie, il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers ces personnes. On ne va pas être contaminé, nos cœurs sont déjà contaminés en fait. Et c'est rigolo, en regardant ce texte, il y a une structure qui ressemble un peu à celle qu'a vécu Pierre dans les Actes des Apôtres. Pierre, Jésus lui a répété à plusieurs reprises, notamment ce passage-là, est une leçon pour Pierre qui était là à côté, un des disciples, qu'il n'y a pas de problème avec aller vers les non-juifs. Il faut même le faire, même si ce n'était pas le moment à ce moment-là pour Jésus. Pierre, il va d'abord avoir un rêve. Dieu va lui envoyer un rêve et lui dire « Vas-y, mange !» Et il voit devant lui tous les animaux de la terre, notamment des animaux impurs. Et il se dit « Non, non, je ne peux pas manger, c'est impur. » Et Dieu lui dit « C'est pas ça le problème. Ce que j'ai déclaré pur, c'est pas à toi de dire que c'est impur. » Et juste après, il l'envoie vers Corneille. Corneille, lui, a su dans un rêve que Pierre devait venir chez lui pour lui prêcher l'évangile. Corneille était un non-chrétien. La même séquence, c'est pas un problème. Ils ne sont pas plus impurs que vous et ils ont besoin aussi de l'évangile. D'ailleurs, la distribution des pains dont on a parlé, chapitre 6 et chapitre 8, au chapitre 6, ça se passe en territoire, en Galilée. Et probablement que la plupart des gens de la foule sont des juifs. Et à la fin, il reste combien de paniers ? 12, ouais, 12 paniers. Ça vous rappelle rien ? 12 apôtres, ouais, mais qui sont aussi une référence aux 12 tribus d'Israël. Et ce 12, c'est le 12 d'Israël. Et le deuxième distribution de pain, ça se fait en décapole, probablement. Jésus, après cet épisode-là, il va rester en territoire non-juif, il va contourner du sud du Liban, il va passer de l'autre côté de la mer de Tibériade, dans une région païenne aussi, en décapole. Et probablement que cette foule des 4000 était majoritairement une foule de non-juifs. Et d'ailleurs, à la fin, il reste 7 corbeilles, comme 7 jours de la création. Jésus nous fait une leçon, quelque part une leçon de choses, pour dire « Allez-y ». Marc montre la cohérence entre ce qui se passe avant la mort et la résurrection de Jésus et après sa mort et l'envoi des disciples. Et ça nous encourage, nous, à distribuer ces miettes que nous avons reçues en abondance aux juifs et aussi aux non-juifs. Et sans casting préalable. Peut-être que des fois on fait des castings, on dit « Oh, celui-là, aucune chance ». Ou alors des castings sur nos préjugés. On a parlé de préjugés raciaux, Jean-Yves en a parlé, de dire « Oh, bon, pas la même langue, pas la même origine, pas le même sexe, il est dans quelque chose de bizarre ou d'impur ». On n'a pas à faire ce casting, c'est Dieu qui appelle. Alors, je vais conclure. J'ai dit que la femme étrangère avait une mauvaise image dans la Bible. On a cette, cette femme Jézabel, qui n'est pas vraiment un exemple, pour le moins qu'on puisse dire. Mais c'est un peu plus nuancé que ça. Oui, j'accélère, merci. Je conclue. Il y a trois femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus et qui sont des mères, quelque part des mères, des grand-mères, des arrière-grand-mères du Messie. Et parmi ces trois femmes, il y a au moins deux étrangères qui sont Ruth et Rahab. Et quelque part, l'évangile, c'est quelque part le rachat d'une femme étrangère, d'une femme. Nous étions l'épouse qui ne méritait rien, qui était impure, étrangère. Et lui, il est venu pour nous sauver, pour nous purifier de l'intérieur. On était loin et indignés. Ça, il faut l'avouer, le confesser. Et qu'on puisse, comme cette femme étrangère, saisir la vérité de la parole et nous jeter aux pieds de Jésus. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, on te remercie pour cet exemple de cette femme étrangère qui s'est jetée à tes pieds, qui a reconnu son indignité et que toi, dont tu as révélé la foi. Et que Seigneur, ce matin, nous puissions tous dire « Oui Seigneur » à tes paroles. « Oui Seigneur, je ne suis pas digne, mais toi, dans tes paroles, tu m'as promis. » Seigneur, que nous puissions nous tourner vers toi, oublier ces murs de notre orgueil, le mur aussi fait par les hommes, et saisir ta main. Que ceux qui ne t'appartiennent pas puissent être interpellés par ta parole de compassion, mais ta parole de vérité aussi. Et puis pour nous qui sommes chrétiens aussi, que nous puissions aussi nous retourner vers toi. Nous avons besoin de recentrer notre vie autour de toi. Et aussi, dans l'abondance des miettes que tu nous donnes, que nous ayons la joie et que tu nous équipes pour pouvoir annoncer ta personne, ton amour, le salut que tu offres dans le monde entier. Amen.